faire les choses de manière moins orthodoxe.
C'est que il y a des petites bévues dans notre dans nos fichiers en termes de chiffres. Fait qu'on va juste aller ajuster les petites virgules pour s'assurer que ce que la présentation a, c'est les bonnes données. Fait que ce qu'on va faire pour ne pas vous retenir trop longtemps, c'est qu'on va faire un ordre inversé de présentation de budget. C'est-à-dire qu'on va commencer par la rétrospective de l'année. Normalement, c'est le moment fun à la fin, mais on va commencer par ça. Ensuite, François va présenter le plan triennal d'immobilisation, donc les investissements qu'on prévoit à faire pour les trois prochaines années. Entre les deux, pendant ce temps-là, je vais aller avec Mélissa corriger au besoin les derniers chiffres dans la présentation. Puis on va être en mesure de revenir pour vous présenter le budget proprement dit. Fait que ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est on attend tout le monde, c'est que c'est moins le fun. Fait que j'ai l'impression qu'on peut essayer de faire ça comme ça. Oh, puis on va wigner, comme on dit en bon français, là, l'exercice. Puis on va vous revenir avec des chiffres là, ici. Ça vous va?
Oui.
Parfait. Cool. OK. Fait que, ouverture de la séance. Le maire constate le quorum. Et l'ouverture de la séance à 19h10 aujourd'hui. Véro, est-ce que tu peux me lire ça?
Je peux continuer avec les points à l'écran. S'il vous plaît. Puis si vous voulez vous retirer,
je peux faire ça.
Je peux mener l'ordre du jour.
Je te laisse aller avec ça, puis je reviens. Merci beaucoup.
Parfait. Prenez le temps qu'il faut.
Bonne chance.
Oui, oui. Merci d'invitation.
Ça arrive.
Bon, alors, j'y vais pour le point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Le conseil procède à l'adoption de l'ordre du jour du 26 janvier 2026. En conséquence, l'adoption de la résolution est proposée par le conseiller.
Frédéric Crampeau.
Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je vais donc appeler au vote. Parfait. Alors, c'est adopté à l'unanimité pour l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à l'ordre du jour? C'est le point 1.3 de notre assemblée aujourd'hui. Non. J'y vais donc avec le point
2.
4.
Non, présentation du budget.
Puis, tu vas présenter la rétrospective.
Moi, je vais faire la fin, puis... Alexandre Bonnet faire le début.
Bon, bien, parfait. Alors, je déclare le point 2, présentation du budget 2026, ouvert. Est-ce que tu peux y aller avec la présentation?
Ben oui, absolument. Oui.
Parfait.
Bon, bien, bonsoir. Je vais aller chercher tout de suite la fin de la présentation. Je vais attendre le plan triennal. Je vais le faire en deuxième temps.
Oui.
Alors, cette année, écoutez, c'était une année où on a travaillé beaucoup sur les études à faire et aussi sur des travaux. On a réalisé des travaux, entre autres, la réfection de la rue du Manoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans une période où on a la possibilité d'avoir une subvention de la TEC. En gros, c'est la taxe sur la vente de l'essence qui est redistribuée à l'échelle de la province. Et on a eu une subvention de 175 000 cette année, mais on doit la dépenser d'ici 2028. Pour pouvoir être capable de procéder, il faut avoir un plan d'intervention à jour. Donc, cet été, vous avez vu toutes sortes d'équipements se promener sur le territoire, des caméras d'inconduite, on a fait de l'inspection des chaussées et autres. Donc, on a maintenant un plan d'intervention qui nous dit ce qu'il faudra faire en priorité, parce que c'est pas parce qu'on veut faire telle rue qu'on peut la faire. Il faut que ça soit bien calibré dans une étude. Par contre, on a su à la fin de l'été que la rue du Manoir, l'extrémité de la rue du Manoir, qui était l'asphalte était complètement défait, on avait réussi à refaire les fossés l'année dernière. Donc, on était prêt à refaire la chaussée et la fondation. Mais on attendait de savoir s'il fallait changer les conduites. Et finalement, les conduites avaient été changées à cet endroit-là, ce qui n'est pas le cas pour toute la rue du Manoir. Donc, on a pu procéder au coût de 35 000 $ à la chaussée. On a fait les accotements, un peu la fondation et l'asphalte. Donc, ça, c'est un beau travail. L'autre gros travail qui a été fait cet été, puis ça fait des années qu'on attendait, on a même retardé parce qu'on n'avait pas le financement à ce moment-là, la vidange des étangs aérés, c'est pas une mince affaire. On avait quand même un très gros volume à sortir. Alors, vous avez sur la photo de gauche en haut, L'équipement, hop, là, je suis sorti de ma présentation. Bon, comment j'ai fait ça, moi? Hein? Je l'ai pas. Bon. La façon dont ça fonctionne, c'est un radeau avec un système de pompe et avec un qui est acheminé dans un système de container dans lesquels ils mettent des polymères pour essayer de dégager la matière organique et des contaminants et autres. Évidemment, tout ce qu'on jette dans nos toilettes se retrouve là-dedans. Là. Alors, si quelqu'un va perdre son partiel, c'était le moment d'essayer de le trouver. et ensuite, ça va dans des géotubes. Il y en a 5 au total. Donc, c'est des toiles en géotextile. On appelle ça des géotubes qui sont installés dans une petite dépression avec une membrane pour recevoir le lixivia. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le jus s'en va là-dedans et c'est perméable. Et finalement, le liquide, ce qui est le plus liquide, finit par s'extraire du géotube, s'en va dans le bassin qui est lui-même pompé et qui est retourné dans l'étang numéro 1 pour être retraité. Cet été prochain, l'été prochain, il faut sortir ces géotubes-là puis les envoyer dans un site autorisé par le ministère de l'Environnement. Nos échantillons de boue contiennent trop d'aluminium, qui est un contaminant. En fait, l'alun qu'on se sert pour décanter les boues devient un contaminant. S'il n'y avait pas eu trop de concentration, on aurait pu les envoyer dans des terres agricoles, imaginez-vous donc. Mais les nôtres sont trop contaminés par l'alun, par le flocculant qu'on prend. Donc, l'été prochain, il nous reste à peu près un 40 000 $ sur un projet de 195 000 à débourser. Donc, il y a un règlement d'emprunt qui va se faire pour ça. Vous allez voir, dans des projets cette année, on parle de réserve financière, justement pour ne pas aller à chaque fois en règlement d'emprunt, de se faire une réserve qui, au gré des années, va nous permettre de décaisser sans aller chercher des emprunts. Donc, ça a été fait. On était contents. On a frappé un super entrepreneur. Vraiment, il connaissait son affaire. Il était avec un très bon équipement. Ça a super bien été notre affaire. L'autre question qu'on a fait beaucoup cette année, ça a mobilisé quand même René Drouin, c'est la mise aux normes des installations septiques. Vous savez que la ville de Stoneham, Québec et Lac-de-Lage ont eu une subvention de 40 millions, en fait, du ministère des Affaires municipales pour mettre aux normes les installations septiques dans le bassin versant du lac Saint-Charles, compte tenu que c'est une réserve d'eau potable. Donc, on est arrivé avec des nouvelles technologies qui n'étaient même pas autorisées par le ministère de l'Environnement. Il a fallu faire des amendements à la réglementation pour autoriser des technologies nouvelles. Alors, vous avez des technologies qui peuvent aller jusqu'à 50 quelques mille dollars d'investissement. C'est quand même pas rien. Donc, on commence à s'apercevoir ce que coûte de ne pas être accordé un réseau d'égouts et aqueduc. Et c'est des technologies qui vont demander une surveillance accrue. Alors, deux entretiens, en fait, au moins deux vérifications par année, des changements de lampes UV. Bref, c'est des technologies qui vont demander beaucoup de soins. Et ils ont été mis en place avec soin aussi. On a été très, très diligents pour que les choses se fassent correctement. Compte tenu que des terrains au Lac-de-Lage sont pas faciles. Alors, vous avez ça, c'est sur l'avenue du Rocher. Là, la pente, là, c'est une pente très, très extrême. Trouver un endroit pour installer ça, c'était tout un défi. Donc, René s'est associé avec les entrepreneurs à faire les choses correctement. Donc, nous, on en a peut-être une vingtaine au total à faire. À Stoneham, ils en ont déjà mis au-dessus de 250, puis il en reste encore 200 quelques à mettre. Donc, l'intérêt, c'est que ceux qui ont des possibilités de mettre à niveau leurs installations, je vous invite à lever la main, parce que la subvention est prévue jusqu'en 2028, mais l'autre condition, c'est on en fait jusqu'à temps qu'on ait de l'argent. Donc, ça se peut qu'on ne se rende pas en 2028. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous l'ont procédé, là, mais quand même. Donc, les installations de Lac-de-Lage étaient des installations de premier niveau, c'est-à-dire un bassin, en fait, une fosse sceptique avec un champ d'épuration. Et souvent, ce n'était pas dans les normes, même à cette époque-là. Les sols n'étaient pas appropriés, mais c'était à la façon de faire à l'époque. Aujourd'hui, on est drôlement plus soucieux. Les compteurs d'eau, c'est un autre projet qui a coûté au-delà de 35 000 $ à la ville. Le ministère de l'Environnement nous obligeait depuis quelques années à implanter des compteurs d'eau dans au moins 25 résidences et dans tous les équipements commerciaux, c'est-à-dire le manoir, le pavillon, le garage. Parce que les établissements commerciaux, eux autres, sont tarifés maintenant au volume d'eau qu'ils utilisent. Pourquoi que le gouvernement incite ça? Parce qu'évidemment, c'est les plus gros consommateurs d'eau. Puis l'autre part, c'est que la stratégie d'économie d'eau vise à réduire la consommation d'eau au Québec parce qu'on est des très grands consommateurs. En fait, elle ne coûte pas cher, l'eau, puis on la dépense. Puis on s'aperçoit avec le temps qu'avec les changements climatiques, l'eau, on commence à en manquer dans bien des régions. C'est étonnant, là. Mais moi, quand je parlais de ça il y a quelques années, dans le cadre de mes anciens mandats, pas ça pour un fou, mais je vous dis, il y a plusieurs municipalités qui manquent d'eau. Et quand ils en ont, elle est souvent de très mauvaise qualité. Il y a au-dessus de 250 municipalités au Québec dont leur eau n'est pas potable, qui sont sur des avis d'ébullition. Donc, quand on a de la bonne eau, il faut y faire attention. Vous allez voir, dans le budget cette année, on a découvert qu'au manoir, le manoir du lac de l'Âge prend 38 % de l'eau de l'aqueduc de la ville de lac de l'Âge, ce qui était une grande surprise. Ce qui a fait que la moyenne de consommation par les résidents d'autant a baissé, ce qui fait qu'on est revenu à des consommateurs de la joie très, très corrects par rapport à ce qu'on pensait au départ. Parce qu'on pensait pour de gros consommateurs. Donc, vous allez voir dans le budget, c'est une nouveauté, le manoir est tarifé en fonction de sa consommation. On a ajouté des compteurs pour le garage, en fait les deux garages, et pour le pavillon aussi, parce qu'on ne l'avait pas fait l'année dernière. Et pour les résidences, ça se trouve être chez nous. Vous avez ici, c'est un système par Internet. Alors, ça permet d'avoir les résultats à distance, si on veut. Mais aussi, il y a comme un odomètre, c'est-à-dire qu'on peut, quelqu'un qui a ça chez lui, peut aller prendre une petite photo des chiffres là, puis à chaque mois d'aller reprendre une petite photo puis faire la différence pour voir sa consommation. Donc, c'est deux moyens qui sont utilisés. Donc, au niveau des résidences, on ne chargera jamais de frais pour nos résidents. OK? On embarque. Ça a coûté 35 000 $ pour 25 résidences. On ne s'embarquera pas pour les 300 quelques résidences. Mais ça permet de voir chaque type de résidence. Comme chez moi, j'ai un spa, j'ai une piscine, j'ai encore une grande fille. Fait qu'imaginez, on passe de l'eau. Il y en a qui sont tout simplement deux dans la maison. Il y en a qui ont des jeunes enfants. Donc, on a été chercher une variabilité de maison pour voir un peu quelle est la constance de l'eau. Bon. Des études, on en a fait cette année. Je vous ai parlé tantôt du plan d'intervention 24-28. C'est en fonction de la fameuse subvention provinciale pour la mise à niveau des infrastructures. Donc, c'est notre troisième version de plan d'intervention. On en avait eu il y a fort longtemps, c'était assez primitif, mais aujourd'hui, c'est très détaillé. Alors, des grands tableaux comme ça, on en a. Et ce qui permet de voir ce qui reste à faire dans la ville. En fait, toute la Haute-Ville a pratiquement été mise à niveau. Il y a deux ans, trois ans, on a fait ce grand travail-là ici sur l'avenue Pied-des-Pentes, l'avenue des Villas, puis la rue du Manoir. Là, ce qui reste à faire, c'est du ruisseau, des sentiers et du manoir. D'ailleurs, du manoir, les conduites datent quasiment de l'époque de la création de la ville, dans les années 60. Des conduites en fonte grise, fortement avec des grosses concrétions dedans. Ça presse. D'autre part, ici, on a un bris de conduite pluviale. Et uniquement ça, là, on est rendu à 5 500 $ du mètre linéaire. Alors, quand on calcule la distance, la subvention qu'on nous a offerte ne fera pas la job. Il va falloir encore prioriser même à l'intérieur de ça. Par ailleurs, on a une conduite qui part de la rue des Monts à l'avenue du Lac, qui est une conduite sanitaire, qui, grâce aux vidéos qu'on a passées avec des petits robots dans les conduites, un tel petit robot s'est ramassé dans un paquet de racines à tel point qu'il a failli perdre ton robot. Ce qui nous a dit qu'on est un peu dans le trouble avec cette conduite-là. C'est-à-dire qu'il faut absolument aller enlever les racines avec un autre robot qui fait de l'alésage. Puis ce qu'on nous conseille, c'est de gainer. En fait, on fait des gaines par l'intérieur des tuyaux. Ça, c'est priorité numéro un. Fait que la rue du Manoir, du Ruisseau et des Sentiers vont attendre jusqu'à 28 pour pouvoir le faire, parce que c'est la conduite sanitaire qui, dans le fond, dessert toute la Haute-Ville vers l'usine, qui est un peu en péril. Alors cet été, on va se mettre là-dessus. Ce matin, moi, j'avais estimé à 50 000 $. En parlant avec les ingénieurs, ils m'ont dit il faut ajouter un petit 100 000 à ce montant. 150 000. Alors, si vous faites le calcul, 175 000 moins ça, moins des études, parce que ces études-là, ils ont coûté quand même assez cher. On ne fera pas ce qu'on pensait faire dans les prochaines années. On va s'en tenir à des urgences prioritaires. On a aussi, j'ai fait faire une étude par la firme en hydrogéologie, Elena, sur notre station de pompage. Vous savez que la sablière qui est ici, ça, c'est tout ce qui est en vert, c'est notre aire d'alimentation. La goutte d'eau qui tombe dans la nappe verte, là, elle se ramasse dans notre puits. Ma préoccupation, c'est de voir l'exploitation de sablière qui va de plus en plus vers l'ouest, qui creuse de plus en plus. J'avais une préoccupation à savoir, est-ce qu'il est en train de pomper notre eau? Parce qu'il exploite sous la nappe d'eau, lui-là. Là. Il fait du nettoyage de gravier dans les bassins qu'on voit à l'intérieur ici. Et ma préoccupation, c'est est-ce que les contaminants potentiels, puis les contaminants, c'est pas nécessairement de la chimie qui vient de l'extérieur, là. Ça peut être du manganèse, ça peut être des ocres ferreux, ça peut être des choses qui sont tout à fait naturelles dans notre géologie, mais qui, par le traitement de la sablière, pourraient s'amener par ici. D'autre part, il y avait des projets P2, centre d'accueil, stationnement, camping. Mais nous, on voulait savoir, on est-tu dans le trouble avec ces projets-là? Qui se passent à Stoneham, qui ne sont pas chez nous. Donc, j'ai fait faire, l'étude est rentrée à la fin de l'année dernière, en fait, juste avant qu'on parte en vacances. On va s'organiser, vous ayez une présentation de ça. Les nouvelles sont bonnes, on ne manquera pas d'eau. Donc, notre eau va être restée en quantité et en qualité si on met en place un certain nombre de mesures, si ces projets-là venaient. Fait que, il y a autant d'analyses de diffusion des contaminants. En fait, c'est un beau modèle. Et je suis très, très heureux de ce rapport-là. Donc, c'est aussi une autre étude de 25 000 $ à peu près qu'on a eu. Ensuite, on s'est équipé d'un tracteur. Bien, vous le voyez, il est tous les jours en train d'élargir les rues, de faire des nettoyages de bornes fontaines. Je vous avoue qu'on est excessivement heureux d'avoir ce nouvel équipement qui permet, dans le fond, de multiplier les usages. En fait, les gars font beaucoup plus d'ouvrages dans une journée qu'on en faisait auparavant avec la petite souffleuse ou avec la pépine, pour pas la nommer autrement. C'est un usage multifonction. Alors, on a déjà la gratte et le roto, la souffleuse. On a déjà le broyeur déporté, c'est la débusqueuse. Alors, dites-vous qu'à chaque fois, là, nous, on sauve des milliers de dollars quand on utilise ça. Déjà, là, le fait qu'on ait déjà élargi les rues deux fois, mais calculez que l'année passée, ça nous coûtait 5000 $ la fois. Fait que c'est un tracteur qui va se payer de lui-même. L'été, on veut acheter un balai à rue, parce que comme la ville est petite, on passe en dernier avec les fournisseurs de balayage de rue. Et comme on met beaucoup d'abrasifs sur nos rues, ben le printemps, il est très sablonneux pour tout le monde qui font du vélo, qui se randonne, puis ça fait de la poussière, puis ça se ramasse dans nos regards pluviaux et éventuellement dans le lac. Donc ça, c'est un achat qu'on veut faire. Ça a été fait cette année. Ça, si on veut faire ça l'été prochain, en même temps que ça ici. Et c'est tous des équipements qui vont sur le tracteur. Déchiqueteur et broyeur à feuilles. On peut mettre des branches jusqu'à 4 pouces. C'est ça, 4 pouces? 8 pouces. On peut mettre quasiment des arbres. Et on peut mettre des sacs de feuilles directement dedans. Ça, le chip. OK? Avant, les branches, on les accumulait à côté de l'usine de traitement des eaux. Cette année, il y a un fournisseur qui nous chargeait 15 000 $ pour en débarrasser. Là, on va les ramasser à la mesure. Il va y avoir un camion avec un trailer qui va suivre, ou peut-être même le gros camion, qui va suivre le broyage. Et on va aller le porter chez Craig gracieusement. Parce que lui, il les ramasse.
Chez qui?
Monsieur Craig, la sorbière.
OK.
OK, il fait des composts avec ça. Ça ne coûte rien. Par contre, si on y amène des branches, oh là, c'est pas le même prix. Là.
Les feuilles, on les garde pour nous autres?
Les feuilles, on les garde pour nous.
Les composts dans la sablière, ça ne peut pas se ramasser dans la fratrie, ça? Le cylindre, justement,
de ça. Ça, c'est une autre affaire. Oui?
Il est autorisé pour faire ce compost.
OK.
Et c'est encadré par un certificat du ministère de l'Environnement.
C'est bon. Ben, vous voyez, vous avez la réponse. Donc, nous, le compost, parce qu'avec de se débarrasser des feuilles par les années passées, ça commence à coûter cher parce que il faut payer le transport, c'est sur la rive sud, il faut payer le traitement qu'ils font avec les feuilles, tandis que pour nous, c'est un engrais. Alors là, nous, on est en train d'aménager un parc à feuilles à côté des étangs aérés qu'on va compléter l'été prochain. Donc, l'autre affaire, ben là, vous voyez, là, je vous le dis, là, c'était les dernières babelles qu'on achetait parce que là, on est vraiment bien équipés. Et c'est très complémentaire. C'est tous des équipements qu'on avait besoin et c'est très complémentaire. Alors, on a réparé les quais. Alors, avec les inscriptions pour la location d'emplacement d'embarcation, on autofinance les travaux qu'on fait sur les deux parcs nautiques. Alors, l'année passée, c'était sur l'avenue du Lac. Là, cet été, on a fait sur l'avenue du Rocher. Et c'est fait par nos gars. Alors, c'est Pierre qui fait ça, puis toute l'équipe va mettre ça à l'eau après. Très belle réalisation, on est très, très fiers, et on sauve des sous en plus. OK? Fait que l'été prochain, on s'attaque à l'avenue du Lac pour l'escalier, puis on va ajouter une autre section plus large à l'autre bout du quai sur l'avenue du Lac, parce que les gens nous le demandent. Ils veulent avoir une place pour se faire griller. On n'est pas con. On n'est pas con. Ça fait partie de l'agrément d'aller là. Alors ça, c'est des réalisations qu'on fait à l'interne. Avant, on donnait ça à l'externe, et ça coûtait très cher. C'est tout en cèdre, en passant. Hein? C'est tout du bois là, qui a une bonne résistance. Au niveau de nos activités de bénévoles et autres, bon, on a eu évidemment des activités de petits entrepreneurs. Il y était plusieurs. Là. J'ai pris celui-là parce que j'avais avec la photo. On a aussi notre équipe de jeunes bénévoles qui ont été honorés par l'Assemblée nationale. C'est des jeunes qu'on voit dans toutes nos activités de loisirs et autres. La fête de Noël cette année, c'était un très grand succès. La Loing, mais regardez encore une fois comment ça distribue. Là. Il y a des bénévoles pour s'occuper des animations, mais aussi nos personnes un peu plus âgées qui contribuent. Un peu plus âgées, c'est-tu correct?
C'est parfait.
Parfait. Qui se dévouent à remplir les sacs de bonbons et autres, et on les voit régulièrement dans nos activités, quand ce n'est que pour emballer des cadeaux, des choses comme ça. Donc, vous voyez qu'on essaie d'avoir une approche là, de bénévoles le plus possible. La fête de la Saint-Jean, qui était un très grand succès l'année dernière avec le Méchoui, c'était vraiment plaisant. Il y avait plusieurs activités. Alors, qui mobilisent, là, on avait un fort pourcentage de la population du lac lors de cette activité-là. Puis, évidemment, ben, ça nous permet de rencontrer nos élus là, qui contribuent, là, le député de Chauveau, le député fédéral, là, qui viennent nous rencontrer, qui sont très heureux parce que c'est très champêtre, nos affaires ici. C'est très familial. Et ils finissent par nous connaître en plus, fait que c'est de belles rencontres. Donc, une équipe à votre service. Alors, c'est l'équipe de la ville de Lac-Galage, vous nous connaissez toutes. Et moi, je peux vous dire que je suis très fier de cette équipe-là parce qu'ils sont excessivement dévoués. Ces gens-là pourraient aller travailler ailleurs avec des taux horaires peut-être probablement beaucoup plus avantageux, mais c'est des gens qui sont dédiés à la ville. Je vous le dis, là, c'est vraiment incroyable. Pour avoir travaillé dans différents autres domaines, là, je peux vous dire que ça travaille fort aussi. Ben, écoute, il me restait le plan triennal, mais si tu veux, on pourrait faire à la suite.
Ah, OK? C'est super. Là, donnez-moi 30 secondes, le temps que...
Merci, François, pour la rétrospective.
C'était ouais, pour gagner du temps, dites les dons. Là.
Oui, ça va bien donné.
Bon, c'est parfait. Fait que donnez-moi deux petites minutes, même pas, je vous arrive avec ça. Parfait. OK. Je démarre ça ici. OK. Join now. Parfait. Ça c'est beau. Je vous explique ce que je fais dans une seconde. C'est que là, on va enregistrer la présentation du budget. Comme ça, on va pouvoir la partager aux citoyens après, ceux qui ne sont pas présents. Fait que c'est ce que je suis en train de faire ici. C'est parfait. Je pense qu'on y est, là. Super! Voilà. Merci beaucoup, François.
Tu peux...
Oui, je vais juste... Ah, il me reste un bouton d'enregistrement à cliquer. Comment je fais pour venir ici? Je vais juste faire enregistrement. More. Record. Start recording.
Vous n'êtes pas filmé, il est filmé. Juste pour vous dire, vous assurer.
Quelqu'un sait comment sortir de là?
Mm-hmm.
OK, 3, 2, 1.
Est-ce que vous auriez eu des questions sur la présentation que François a fait, la rétrospective de la dernière année?
Oui.
Est-ce que les compteurs d'eau, il y en a un sur le théâtre?
En fait, il est branché sur le pavillon. C'est le même conduit d'eau. Donc, on est capable d'avoir la consommation.
Ça inclut aussi le support de vélo en arrière. Si le vélo il est branché sur cette même bâtisse.
C'est le sens de la
Y a-t-il la place à stationner votre belle machine?
On la met dans le garage. Il y a des pick-up.
Vous êtes capable?
Il a dormi toute sa vie dans le garage. Il maintenant dort dehors. Il va survivre. Des fois, on rentre les choses comme dehors. Sinon, non, il dort en dedans parce qu'il y a plein de pièces mécaniques. Donc, quand on souffle longtemps, ça devient une grosse boule de neige. Ouais. Ça fait bien de laisser fondre dans la nuit. Sinon, on va amener.
Parfait. On y va? Génial. Donc, merci pour votre patience. Alors, aujourd'hui, c'est le premier budget qu'on présente, évidemment, suite aux élections. C'est pour ça qu'on appelle ça un budget de transition, c'est-à-dire que, évidemment, ça s'inscrit dans la continuité des dossiers qui avaient été entamés en 2025. Vous comprendrez, quand on arrive au mois de novembre, après ça, le budget qu'il faut faire au mois de janvier, ben, ça laisse peu de temps pour vraiment... modifier des choses. Ceci étant dit, ça s'inscrit dans la continuité, dans le fond, des services qu'on veut offrir encore aux citoyens, malgré le contexte qui est de plus en plus difficile pour les municipalités là, de joindre les deux bouts. Là. Les coûts augmentent de partout. Vous avez sûrement lu ça quelque part dans les médias. On n'est pas unique en ce sens. C'est aussi une année où est-ce qu'on a un nouveau rôle. Vous êtes sûrement au courant de ça. Tout le monde a reçu des nouvelles évaluations. Ça nous permet aussi d'avoir des nouveaux outils fiscaux pour avoir une meilleure équité entre les citoyens. Donc, c'est un projet qui était entamé depuis l'année dernière. On en a parlé lors du dernier conseil. Je vais en reparler un petit peu aujourd'hui. Et aussi, c'est un budget qui va mettre la table, qui va nous permettre, dans le fond, de se préparer pour l'avenir, c'est-à-dire ça va nous donner les bases pour être capable de faire une meilleure planification stratégique, là, donc de la vision de où on veut amener en tant que tous citoyens, là, où on veut amener l'acte de l'âge, et aussi de nous permettre d'aligner un plan financier là, pour les prochaines années, pour supporter, là, de vivre en fonction de ce qu'on veut, en fonction de nos moyens comme municipalité. Donc c'est vraiment le contexte pour le budget d'aujourd'hui. Donc principalement les trois nouveautés... Oui, tu as raison, il faut que j'appuie ici en même temps. Tu peux me faire ça en même temps, génial, merci. Les trois nouveautés, la première, c'est la taxation par secteur et à taux variés. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on est capable maintenant, pour la première fois de l'histoire de l'acte de l'âge, d'avoir une taxation qui est adaptée en fonction des catégories d'immeubles et en fonction du secteur dans lequel les immeubles sont localisés. Donc, ça assure une plus grande équité entre les différents citoyens. Il y a une taxation de l'eau qui est consommée à partir de cette année. C'est seulement pour les immeubles non résidentiels, donc il n'y a pas de citoyen qui va avoir des taxes au niveau de la consommation de l'eau. Ça va s'appliquer essentiellement aux immeubles commerciaux, donc le manoir, évidemment, principalement. Encore une fois, ici, c'est une question là, d'équité entre les utilisateurs pour les services d'aqueduc. Et le troisième grand point, c'est que pour... je ne peux pas dire pour la première fois de l'histoire de l'acte de l'âge, mais on va remettre de l'avant la création de réserves financières pour nous assurer d'avoir les moyens, là, d'avoir un petit coussin et puis de prévoir, d'anticiper les dépenses dans les prochaines années à venir, entre autres dans le plan de triennal d'immobilisation. Mais c'est un concept, dans le fond, qui nous permet de prévenir au lieu de guérir par des financements lorsqu'il faut faire là, des réparations sur les réseaux et des choses comme ça. Donc, c'est les principales nouveautés. Les faits saillants du budget, premièrement, le rôle d'évaluation en moyenne a augmenté de 26 % pour l'ensemble des résidents là, donc du territoire du lac de l'Âge. Le budget de fonctionnement Là, vous allez voir, aujourd'hui, je vais parler beaucoup avec réserve, sans réserve. C'est pour vous donner un point de comparaison des années précédentes, parce que les réserves ont évidemment un impact sur le budget. Je veux m'assurer que vous compreniez là, les impacts sans la réserve. Donc, on parle d'une hausse de 10,5% du budget de fonctionnement. Donc, ça, c'est ce qui en coûte pour opérer la ville, essentiellement. Donc, l'année passée, je vais vous donner les chiffres en détail, ça ne sera pas tellement long, mais vous allez voir les comparaisons. Et avec la réserve, ça va être 13,7%. Donc, la réserve, essentiellement, c'est une hausse de 3,2% là, sur le budget parce qu'on commence à créer des réserves.
Ton acétate est comme pas corrigé là, mais sur ton ordi, oui.
Ben oui, hein? Je vais vous dire pourquoi.
Tiens. Ah, tiens.
Excusez-moi, merci Mélissa pour cet œil. Voilà! C'est en ligne, mais des fois, il faut rafraîchir. Le compte de taxes, en fait, pour une réserve, pour une résidence, pardon, de type moyenne, donc dans l'ensemble du territoire, je vais vous donner des simulations un petit peu plus tard pendant la présentation pour trois cas spécifiques, mais on parle d'une hausse de 252 $ en moyenne sur le territoire, soit 5,6 dans un cas sans réserve, mais étant donné qu'on va se doter d'une réserve, la hausse va être de 411 pour une résidence moyenne, et on parle d'une hausse de 9,2%.
C'est quoi une résidence moyenne?
La moyenne est de
467 500. C'est la moyenne du rôle d'évaluation complet.
C'est ça. Oui? Je pensais que c'était 532.
Non, 400.
OK. Bon, en tout cas, j'ai dans mes simulations tantôt, vous allez le voir. Donc, effectivement. Puis, comme vous pouvez voir, la création des deux réserves, on va créer une réserve pour la voirie de 235 000 et une réserve pour le traitement des eaux de 350 000 sur 10 ans. Donc, chaque année, on va récolter 23 500 puis 35 000 pour pouvoir avoir des fonds pour pouvoir être en mesure de faire ces travaux-là. Et ces entretiens aussi du réseau d'aqueduc, entre autres. Donc, en termes de sommaire de budget, vous pouvez voir qu'on a un budget à 2 047 388. Ça, c'est le total incluant les réserves. Donc, c'est une hausse de 246 907 quand on parle de hausse avec les réserves dans ce cas-ci. Vous pouvez voir le ventilé de chacun des postes en comparaison de l'an dernier. Je ne vais pas lire en détail chacun des postes. C'est une hausse, là, comme je vous disais, là, qui avoisine là, les 10,5% au niveau du budget de fonctionnement. Et la réserve s'ajoute en plus pour le total de 2 047 388. Au niveau des dépenses, je vais expliquer, vous allez voir la ventilation dans les prochaines slides, mais les quatre principales causes de la hausse, si on veut. Merci, de l'augmentation. C'est la masse salariale qui a augmenté. Je vais en parler plus en détail là, pour expliquer c'est quoi cette augmentation de 111 000 sur la masse salariale. La planification stratégique et financière. Donc, comme je l'ai mentionné en entrée de jeu, on va pouvoir se doter d'un plan, d'une planification stratégique pour savoir qu'est-ce qu'on veut pour l'acte de l'âge en collaboration avec les citoyens, évidemment. Donc, on a mis un budget de côté pour être capable de faire cet exercice-là avec vous. La voirie et l'entretien de machinerie, donc c'est les deux autres principaux postes où il y a eu des augmentations. Ce qui justifie le 189 000 environ là, d'augmentation sans les réserves. En termes de détails au niveau des sources de revenus, ce que je voulais vous illustrer ici, c'est que c'est pas compliqué. Là. Nous, c'est les taxes foncières, les tarifications, c'est les principales sources de revenus que la ville a à ce jour. Vous voyez que le reste des transferts, c'est quand même marginal là, à 10%. Ça, c'est souvent les subventions qu'on reçoit des différents paliers gouvernementaux là, pour nous supporter dans les différents projets qu'on fait. Et l'autre point que je voulais mentionner, c'est 85% des recettes proviennent des résidents. Donc, on a seulement 15% qui vient du détail commercial. Ça veut dire que des fois, si on est tenté de comparer avec d'autres municipalités pour voir le fardeau fiscal, comment il est réparti, des fois, ça peut-être ça monte moins dans certaines municipalités ou ça monte plus ailleurs. Il faut comprendre que nous, on n'a pas beaucoup de leviers. Des municipalités où est-ce qu'il y a plusieurs entreprises, où il y a plusieurs commerces, à ce moment-là, ils ont plus de leviers pour faire une répartition entre les commerces et entre les citoyens. Mais nous, on est vraiment centré sur... Évidemment, par la nature de notre ville, on est vraiment centré avec une provenance des revenus qui vient majoritairement, très majoritairement de la part des résidents. Au niveau des dépenses, ici, vous voyez, c'est un peu plus réparti également dans différents postes, là, comme je l'ai présenté dans le tableau précédemment. Fait à noter, la masse salariale se retrouve un peu partout à l'intérieur des différents postes. Donc, pour s'assurer de comprendre combien nous coûte, par exemple, l'hygiène du milieu. L'hygiène du milieu, ben, c'est tout ce qui a trait à l'eau, les matières, la collecte des matières...
résiduelles.
Merci, j'allais dire dangereuses, mais là, c'est un peu extrême. Donc, et même pour tout ce qui... le transport, c'est tout ce qui a trait à le déneigement, la voirie, ces choses-là. Donc, à l'intérieur de chacun de ces postes budgétaires-là, il y a des dépenses, évidemment, en salaire pour les employés de la ville. Donc, c'est réparti. C'est pour ça que je voulais prendre le temps de présenter plus spécifiquement comment se ventilait la masse salariale, étant donné que c'est le principal hausse cette année. La masse salariale aujourd'hui représente... C'est beau.
Ça s'est tout fait en même temps.
C'est ça. Donc, ça représente à peu près 29% de l'ensemble des dépenses qu'on a à la ville à ce jour. La hausse est expliquée ici par des choix structurels qu'on a faits en tant que municipalité. On vise à réduire le nombre de la dépendance, surtout sur les sous-traitants, tant au niveau de la voirie qu'en urbanisme qu'ailleurs, parce qu'on est souvent à la merci des hausses dans lesquelles on ne contrôle pas. Donc, on a philosophiquement décidé de faire plus de trucs en régie interne, donc d'avoir un meilleur contrôle sur les coûts. Ça prend plus de monde pour réussir à faire ça, donc ça s'explique de cette façon-là. Puis on va aussi moderniser le règlement d'urbanisme là, en cours d'année, donc on a besoin d'avoir plus de temps dédié à ce type de travail-là au courant de l'année. Et il y a évidemment une hausse salariale annuelle de 3% qui a été donné à l'ensemble là, des employés municipaux. Donc ça, c'est vraiment le détail de la masse salariale. Au niveau de la taxation maintenant, ce que ça veut dire, c'est que le résidentiel... l'année passée, vous voyez, là, on avait 0,84-87. En réalité, l'année passée, il y avait une ventilation avec les frais de la SQ, les frais de la MRC. Donc, le chiffre de résidentiel était plus bas, mais vous deviez additionner la MRC puis la SQ. Maintenant, à partir de 2026, il n'y aura plus de ventilation. C'est tout inclus dans le taux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame des trois ici pour qu'on puisse comparer un peu plus des pommes avec des pommes dans ce contexte-là. Au niveau non résidentiel, il y a une légère hausse là, du taux de taxation. Au niveau des terrains vagues aussi. Et une nouveauté cette année, avec, comme je disais plus tôt, là, avec la taxation à taux varié, on a la capacité de faire une taxation pour les terrains qui sont à vocation récréative à ce moment-ci. Au niveau des services, étant donné que, évidemment, là, on est en mesure de mieux répartir équitablement la facture d'eau et d'aqueduc, c'est pour ça que les citoyens se retrouvent à avoir une baisse au niveau du taux, qui était pas du taux, mais du tarif fixe qui était chargé sur les comptes. Donc, on passe de 700 à 445 pour une résidence, de 1225 à 800 pour deux logements. Et puis, dans le non-résidentiel, c'est là la différence, c'est qu'il y a un taux de consommation au mètre cube et l'égout passe de 700 à 480 là, dans ce cas-ci.
Par chambre.
Par chambre, évidemment. Merci de spécifier. Donc, au niveau des matières résiduelles, les coûts diminuent un peu. On va vous expliquer pourquoi après. Les vidanges de fosses septiques, c'est égal. Dans le non-résidentiel, il y a maintenant une taxation qui est prévue là, pour l'utilisation ou la collecte là, de certains des déchets et des matières recyclables au manoir. Et en bas, vous voyez maintenant les taux qu'on utilise pour calculer les réserves financières. Donc, ce sont des tranches du 100 pour du 100 $ d'évaluation là, pour la voirie.
Le taux de voirie n'est pas bon. Parce qu'on l'a coupé en deux.
C'est pas le bon taux de voirie.
0,014.
D'accord. Donc, on est rendu à 0,014. Donc, moitié de ça, c'est le taux qu'on a pour les réserves financières de la voirie. Et l'aqueduc, dans le fond, se fait avec des taux, pas des taux, mais des frais fixes. Donc, par résidence, vous voyez les montants là, qui sont ventilés selon le type de catégorie d'immeuble. Maintenant, quel a l'impact sur un compte de taxe? Ici, je présente un scénario donc plus bas. Après ça, je vais présenter le scénario moyen, puis après ça, un scénario de valorisation plus élevé, avec des endroits différents dans la ville. Donc ici, c'est un exemple d'une résidence sur la rue des Cimes. Donc, une évaluation a pris 29 % là, d'augmentation, ce qui amène, donc vous voyez le détail, là, le taux, qui a été baissé, comme je vous parlais tout à l'heure, au niveau de la ventilation là, de la MRC, de la SQ. Et avec les ajustements, on parle ici d'un taux de... ça serait 89,16 s'il n'y avait pas de réserve. Avec les réserves, c'est 221,13. Donc, ça va donner comme augmentation proprement dit. Là, si je déplace juste ça ici, c'est plus facile pour moi. OK. Un deuxième scénario, c'est le scénario moyen. Donc ici, on avait une hausse de 27 %. Vous voyez l'impact sur le compte de taxe, plus 252 et avec les réserves, plus 411. Et le dernier, dans le fond, un scénario sur la rue du Rocher, donc une résidence qui n'a pas les services, d'aqueduc et d'égout. On parle du même scénario, une hausse de 26 % en termes d'évaluation, 9,6 sans les réserves, 11,6 avec les réserves. Donc, vous voyez que ça varie là, en fonction du type de maison, du type d'évaluation, l'impact sur le compte de taxes. OK. Et au niveau de la dette à long terme, on voulait aussi vous présenter, parce que c'est souvent un sujet, là, on essaie souvent de comprendre est-ce que la ville a trop de dettes, pas assez de dettes, ou c'est important de ventiler la situation. Donc, on a une dette totale de 5,9, presque 6 millions au total. Par contre, ce qui est positif dans notre situation, c'est que il y a 41%, donc presque 2,5 millions, qui sont assumés par le gouvernement du Québec, dans le sens que ce sont des dettes qui ont été contractées et nous allons recevoir des subventions donc pour payer là, les dettes. Donc, ça a servi dans des programmes dans le passé, entre autres à l'hôtel de ville puis à d'autres projets.
PIQM. Les travaux d'aqueduc et d'égout.
Exactement. Donc, des travaux, des investissements qui ont été faits dans la ville. Et ces investissements-là sont aujourd'hui... on reçoit l'argent. C'est juste qu'il faut débourser au début, puis après ça, on reçoit l'argent. Donc, on traîne une dette, mais en même temps, c'est une dette qui ne nous appartient pas non plus parce qu'elle est garantie par les subventions à venir. Donc, à 60 %, là, on a 3,5 millions environ qui est la dette qui est vraiment au niveau assumée par nous, les citoyens. Donc, c'est une situation qui est quand même... acceptable, mais on n'a pas une grande marge de manœuvre pour prendre des dettes supplémentaires, mais on n'est pas dans une situation là, précaire, loin de là. Au niveau du service de la dette, ça c'est combien on dépense à chaque année pour rembourser notre dette, autant au niveau capital qu'au niveau intérêt. On est à 22,5% du budget en 2026. C'est quand même élevé, donc c'est important là, qu'on reste prudent puis qu'on, comme je disais, qu'on se lance pas dans des nouvelles dettes, des nouveaux contrats, projets là, trop onéreux sans s'assurer d'avoir du support, des subventions, ces choses-là. C'est un peu l'état, puis vous voyez la répartition. Je voulais mentionner aussi qu'il y a des dettes qui sont arrivées à échéance qu'on va refinancer en cours d'année. Donc, on va être capable de possiblement là, de combiner certaines de nos dettes puis les refinancer pour des durées à venir. OK. Donc, un des changements, je vous parlais tout à l'heure de changements au niveau là, des matières résiduelles. La première chose qu'on a fait, c'est de réduire les collectes de vidange, donc tout ce qui est les déchets, pour deux raisons. La première, ça coûte quand même assez cher par collecte. Au niveau de l'hiver, si on réduit de trois collectes en hiver, il n'y a pas de risque d'odeur, il n'y a pas de risque d'accumulation ou d'animaux qui viennent dans le fond détruire nos bacs. Donc, il y a une capacité de le faire en hiver, puis ça a quand même un impact sur le budget. Puis les autres mois, il va y avoir deux collectes. Donc, au final, au total, dans l'année, on a réduit de 5 collectes de matière de déchets. Je vais vous inviter à consulter le calendrier parce que les changements sont entre autres que le mois de février et le mois de mars, les collectes auront lieu le 9 février et le 9 mars. Après ça, avril, il va y avoir deux collectes. Puis après ça, ça va suivre un rythme de deux par mois. Donc, au total, c'est 5 collectes de moins à ce niveau-là. Puis l'autre objectif derrière ça aussi, puis on va aider les citoyens là, dans cette démarche-là, mais évidemment, chaque ville, chaque municipalité est scrutée à la loupe pour la quantité de déchets produits, parce qu'il y a des normes et il y a des objectifs qui sont visés. Donc, on préfère de loin à ce que les matières résiduelles s'en aillent dans le bac de récupération, parce qu'en réalité, ils ne coûtent rien à la municipalité par rapport à les vidanges. Donc, on va aider les citoyens à faire une meilleure sélection, un meilleur tri. Donc, on va avoir un peu d'informations qu'on va pouvoir vous communiquer pour vous aider, à, encore une fois, à optimiser, dans le but de réduire, dans le fond, ce qui va se faire enfouir, si on veut, au final, par les matières qui sont de type vidange. Parfait. Aucun changement au niveau de la collecte des bacs. D'ailleurs, si vous n'avez pas...
De recyclage,
oui, merci. Aucun changement au niveau des bacs de recyclage. On garde deux collectes aux deux semaines, donc ça ne change pas. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, si vous avez besoin de deuxième bac parce que vous avez trop de stock, ben, il y a la capacité ou la possibilité d'en avoir. Et comme je vous dis, il n'y a pas de coût supplémentaire ni pour la ville ni pour les citoyens pour maximiser là, ce qui s'en va en recyclage. Donc, c'est un incitatif, encore une fois, pour qu'on puisse faire un meilleur tri au niveau des utilisateurs. Dans l'objectif environnemental qu'on partage tous. Et la dernière chose, c'est que le remplacement des bacs bruns, en fait, il n'y aura plus de collecte de bacs bruns okay, cette année. Ce qu'à la place, c'est qu'on va offrir des collectes de feuilles, de sacs de feuilles et de déchets de jardin. Donc, on va pouvoir le faire. L'horaire n'est pas encore sorti, mais on va vous annoncer ça d'avance. Pardon?
Il va y avoir quatre collectes, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des composteurs en bois où ce que vous allez pouvoir les distribuer, puis que les gars de la ville vont pouvoir les ramasser pour le mettre dans le conteneur parce que les coûts étaient vraiment moins importants.
Effectivement. Et en plus, avec l'achat d'équipements là, qu'on a fait, avec les broyeurs à feuilles et tout ça, donc on va être en mesure là, de pouvoir faire la collecte à l'interne, au lieu encore une fois de payer les sous-traitants qui viennent ramasser nos feuilles puis qui les envoient à des milliers de kilomètres là, d'ici. Donc on est en mode solution ici là, pour ce type de collecte-là. Et en terminant, presque terminant, je voulais vous dire qu'on a, vous allez apercevoir des modifications sur le compte de taxes comme tel. Vous allez voir maintenant, ça c'est un exemple, là, vous allez avoir toutes des lignes qui vont expliquer les financements. Donc ça c'est une obligation qu'on a de présenter sur les comptes de taxes chacun des règlements d'emprunt qui ont été faits. Et pour que les citoyens puissent comprendre où l'argent est, comment l'argent est collecté là, pour payer ces emprunts-là. Et vous voyez aussi les deux nouvelles lignes là, au niveau voirie et aqueduc. Là, vous allez pouvoir voir ça détaillé sur votre compte de taxe, combien est dédié à ces postes-là. Et l'autre nouveauté, c'est que vous avez la capacité de payer votre compte en un seul versement avant le 11 mars. Et si vous le faites, vous allez avoir 3% de d'escompte. Donc, c'est un incitatif aux citoyens de payer à l'avance ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent. Et si vous voulez savoir comment, c'est quoi le montant, tout ça, vous pouvez vérifier avec Mélissa ici à la ville, ou vous pouvez faire le calcul là, de votre côté. Mais c'est une nouveauté qu'on offre aussi cette année aux citoyens là, pour diminuer, aider à pallier justement là, à la hausse. Donc, en terminant, je voulais juste prendre quelques secondes pour vous dire, parce que souvent, quand on parle de budget, on parle de montants, de dollars, on parle de coûts, puis des fois, c'est un peu abstrait, mais dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que ces décisions-là, puis cet argent-là, elle sert aussi à faire des choses concrètes pour la municipalité. Bon, François vous a présenté, entre autres, ce qui a été fait durant l'année dernière. Mais en termes de ce qu'on va pouvoir faire avec le budget 2026, ben, c'est vraiment de se doter d'orientation stratégique pour définir la ville et avoir un plan de financement pour supporter cette vision-là. On va avoir une meilleure continuité au niveau des opérations, donc en ayant plus de ressources à l'interne versus une dépendance aux sous-contractants. Donc évidemment, on réduit l'apport des sous-contractants. Et on va aussi moderniser notre règlement d'urbanisme. C'est quelque chose qui est important. Il date de 2010. Là, c'est vraiment l'année dans laquelle on doit prendre ce travail-là puis de s'en occuper à partir de maintenant. Puis, encore une fois, je reviens sur le fait qu'on va avoir des réserves tranquillement qui vont se bâtir là, pour être certain qu'on puisse limiter là, les emprunts dans le futur pour faire, dans le fond, ce qu'on doit faire sur une base plus régulière en termes de, d'opérations, d'entretien et d'investissement sur le réseau de la. Donc, ça fait le tour du budget proprement dit. François, je vais te laisser aller avec le plan. Puis, à partir de là... Ah, c'est fini, là? Faut arrêter là? Okay. Ah, il faut adapter le budget, là.
Ok, oui, parfait. Oui, c'est vrai. Oui.
Alors?
C'est
moi qui le sais ici. Parfait, super.
Alors, nous sommes rendus à l'adoption du budget 2026 au point 3. Sur la proposition du conseiller
Karine Chalifour,
il est résolu d'adopter le budget 2026 présentant un budget équilibré de 2 047 388 tel que présenté dans le document détaillé dont les membres du conseil ont tous reçu une copie avant la séance. Est-ce que quelqu'un du conseil appelle au vote? Alors, l'adoption du budget est adoptée à l'unanimité.
Merci. Alors, François...
Oui, je vais prendre le petit pointeur. Moi.
Le petit pointeur, vas-y avec ça.
J'aime ça. Alors, c'est un peu petit peut-être? Quand même, je vais vous l'expliquer. En fait, un plan triennal, là, ben, c'est sur 3 ans. Mais il faut savoir, moi, je l'ai planifié même sur 10 ans, mais parce qu'on a des projets qu'on doit étaler sur plusieurs années. On a une planification un peu stratégique, d'une certaine façon. Donc, pour les bâtiments municipaux, on a la toiture de la station de pompage sur l'avenue, sur la Grande Ligne. Vous regarderez, elle est pas mal frisée. C'est pas dans sa coupe habituelle. Il faut faire ça. C'est 2 000 $, ça va se faire à l'interne. J'ai mis à côté des sources de financement parce que, dans le fond, des fois, on planifie, mais de plus en plus, le ministère des Affaires municipales nous demande d'être réaliste. Comment vous allez financer ça, ces choses-là? Donc, il y a le fonctionnement qui est dans le budget. Il y a des contributions des usagers, en fait, pour les parcs, là, quand on loue des espaces pour le jardin, pour les embarcations. Moi, c'est ce que j'appelle les contributions usagées. J'ai créé un petit fonds environnement. Si vous allez voir, c'est pas gros, mais quand même, on va voir peut-être l'anticiper. Réserve voirie, c'est pour tous les travaux là, qu'on doit faire, ça se répercute dans les plans triennaux. Là. C'est que plutôt de, quand on a un bris d'urgence, puis de le puiser dans le budget de fonctionnement, puis d'enlever quelque chose, là, où ça fait un déficit à la fin, on le prévoit. Réserve eau aussi, donc le vidange des boues, le changement des pompes, des choses comme ça qu'il faut faire d'une façon régulière, ben, elles sont déjà là. Il y a aussi des règlements d'emprunt qui sont obligatoires. On parlait tantôt de la TEC. Il faut des fois emprunter de l'argent pour initier les travaux. On se fait rembourser un peu plus tard. Donc, il y a des projets comme dans le Rouge, c'est des règlements d'emprunt. Puis il y a aussi dans d'autres choses, là, où comme pour le parc, on doit faire le parc, on doit le finaliser le parc. On a des engagements avec le ministère des Affaires du Loisir pour le terminer. Donc, il faut faire un règlement d'emprunt. Il faut faire un règlement d'emprunt aussi pour la vidange des boues, parce qu'on n'avait pas de réserve. Donc, c'est toutes ces couleurs-là qu'on voit à côté. PEVAL, c'est le programme pour la voirie locale. C'est donné par le ministère des Transports. C'est un fonds discrétionnaire. L'année dernière, on a eu 25 000 autour d'eux. Des fois, on a 14 000. Moi, j'en demande pour 90 000 en moyenne. C'est une année électorale. On pense qu'on va peut-être en avoir un peu plus. Donc, puis, autre subvention, c'est qu'on va essayer d'aller chercher des subventions, entre autres, avec Hydro-Québec et autres. Il y a plusieurs fonds pour lesquels on peut aller chercher des sous. Souvent, on le fait via des OBNL, je pense à Agiro, qui peuvent aller monter des projets pour nous, parce que c'est eux qui sont éligibles à ces fonds-là. Donc, je prévois des sommes. Donc, en gros, c'est de la façon que je fonctionne. Je vous dis tout de suite, là, il y a des sommes là, qu'il faut que je change parce que les coûts ont changé, là, mais c'est plus indicatif que formel là, pour cette question-là aujourd'hui. Donc, voirie, matériel, véhicule, on a un réservoir de diesel à changer où il y a une pérennité de 10 ans sur le réservoir, il faut le changer. C'est 5 000 $, on va le prendre dans le fonds de fonctionnement. Le déchiqueteuse à feuilles et à branches, c'est 42 000 $, on l'a déjà prévu dans le budget. Puis on a aussi le balai de rue, j'en parlais tantôt. C'est un équipement qu'on pense avoir besoin parce qu'on passe vraiment dernier, puis souvent c'est de moins en moins bien fait. Alors, c'est un équipement qu'on pourrait mettre sur, carrément sur la pépine pour pouvoir prendre le sable et le verser. Il y a un réservoir qui est prévu pour pas que ça fasse un nuage de poussière incroyable. Et même le manoir serait prêt à nous payer ce que ça lui coûte normalement, là, parce que lui aussi a des problèmes avec ça. On a une génératrice d'urgence qu'il faut mettre au garage là, parce qu'on est pauvre là-dedans. On a des petites génératrices, mais ça en prend une plus grosse. Pour 1 000 $, on la prévoit pour 27. Restauration sur des rives de décharge. Là. Au niveau de quand on va à la décharge du lac, vous voyez que des fois, il manque d'eau. Les embarcations, les gens avec les embarcations veulent sortir. C'est pas stable, c'est même en érosion. C'est des petites sommes que je veux mettre pour faire des petites réparations à l'interne. C'est ce que j'appelle le petit fond vert, là, des petites sommes, 500 $ sur 2 ans. Mesures physiques pour les bernaches. Ça commence à être un fichu de problème. Donc, l'installation de clôture. Je sais qu'il y a des bénévoles ici qui ont mis des clôtures l'année dernière. On va essayer d'améliorer le système, mais c'est un problème qui nous vient du fédéral, ce que vous voulez. Il faut l'assumer. Hein? Les oiseaux migrateurs. Restauration des cours d'eau. On a fait, il y a Thibault puis Marie-Michel qui ont fait un inventaire des cours d'eau qui sont nos affluents principaux. On fait beaucoup de mesures pour protéger lors des chantiers, mais nos ruisseaux ont besoin d'amour. Donc, j'aimerais réserver un fonds là, pour commencer à faire de la restauration de ces cours d'eau-là, enlever les branches. Il y a des berges en érosion à des places. Donc, pour assurer que nos cours d'eau qui alimentent notre lac soient bien protégés. Déplacer les géotubes, j'en parlais tantôt, c'est les gros tubes qui sont remplis de nos bouts. Il reste à peu près 40 000 $ dans le projet initial. Il y a déjà 100 quelques mille $ qui étaient dépensés. Ça fait partie d'un règlement d'emprunt. Et dans ce règlement d'emprunt-là aussi, on va essayer de réparer quelques moteurs là, qui restent à faire. Alors, les pompes aérateurs, là, c'est ça, c'est le 15 000. Nos pompes ont toutes le même âge. Ils ont toutes lâché à peu près en même temps. Fait que là, il en reste un à réparer. On en a déplacé déjà 4.
Donc, on a réparé déjà 2.
Puis, il y en a un sur l'étalier, il cherche les pièces. Là, mais en tout cas, bref. C'est les aérateurs qui jouent beaucoup au niveau de la décontamination du traitement des eaux usées, hein, par l'oxygène et autres. Alors, c'est bien important de les faire marcher. Je vous ai parlé tantôt de la conduite sanitaire qui relie la Haute-Ville à la Basse-Ville. J'avais planifié un 50 000. Finalement, ça va être un 150 000, puis il faut le faire en urgence. Je vais essayer de le passer soit dans le programme TEC ou dans le PRIMO. Là, c'est des programmes gouvernementaux. On n'a pas le choix, il faut le faire dès cette année. Donc ça, c'est un montant, là encore une fois, c'est des argents qu'on a. Dans le budget qu'on a déjà d'alloué, 671 000. Donc on va le prendre dans ce budget-là. Suivi des puits d'observation, pompe à notre station de pompage. En fait, on a un puits d'observation qui est un petit peu plus au nord de nos trois pompes qui sont sur le bord de la grande ligne. En fait, ça nous prend une pompe pour pouvoir vider le truc, pour pouvoir aller mesurer la qualité de l'eau. Tout ça est fait dans le cadre de l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure, là, le programme en hydrogéologie. C'est très important qu'on voit que l'eau qui s'en vient à 300-400 mètres, si elle est de bonne qualité. Achat d'une génératrice pompe sur la grande ligne, vous savez que quand il y a une panne électrique, la station ne pompe plus. Donc, on a un réservoir sur le dessus de la colline qui est capable de maintenir quand même une quantité d'eau, mais après quelques jours, c'est limite. Donc, ça fait partie d'un plan qu'on a depuis plusieurs années. Donc, on le prévoit là en 2028. 30 000 $, c'est le genre de pompe qu'on voit sur des socles de béton, là, comme à Stoneham, là, près de l'entrée de la 301, vous avez une pompe, bien, c'est ce genre d'équipement-là. Réfection de conduite d'eau sur des monts, en fait, j'en ai parlé tantôt. Ah non, ça, c'est... On a une conduite qui passe ici, juste à l'arrière, en contrebas de la nuit des monts, et qui passe à travers le petit parc. Il y a des fuites. On nous recommande de faire un gainage. Fait qu'on l'a mis dans la planification, il fait partie du plan d'intervention. Mais il se pourrait, compte tenu que je vous dis des sommes qu'il faut investir à court terme, que ce montant-là soit peut-être recalé dans un autre plan triennal. Écoutez, on est encore en discussion avec les ingénieurs sur ces choses-là, mais on essaie de le planifier pour ne pas l'oublier, là, mais c'est des choses qu'il faut penser. panneau électrique sur presseur, c'est le panneau avec la génératrice en haut sur des monts. Il n'y a pas de disjoncteur facile à opérer. Quand il y a une panne électrique, les gars, ils vont d'une façon très prudente parce que c'est pas conforme sur le plan de la sécurité. Donc, il faut mettre comme un disjoncteur sur ce truc. Donc, c'est un truc qui aurait dû être fait depuis longtemps. On essaie de le planifier pour l'année prochaine.
Cette année?
Cette année, excusez-moi. Je suis encore en 25, excusez-moi. Là. Réparation du panneau électrique aussi sur le réservoir. En fait, on va simplement mettre des batteries d'urgence plutôt d'installer un système avec des capteurs solaires. On va mettre deux batteries. Et quand il y a une panne, les batteries vont faire la job.
On répare le panneau aussi parce que suite à la dernière panne, il y a quelque chose qui a brisé. Hein?
Oui, c'est ça. Il y a des problèmes électriques. L'équipement est vieux, puis ouais. Ça va être une mise à jour du panneau plus un système de batterie.
Plus des batteries, bon.
Donner de l'autonomie.
OK. Au niveau des infrastructures municipales, il y a le réaménagement sur le site des travaux publics qui est en arrière du manoir. On n'est vraiment pas conforme. Nos abrasifs, ils sont dans un abri tempo sur le sol naturel. Comme on met 6% de sel dans le sable pour pas qu'il fige complètement, normalement, dès qu'on met du sel, il faut faire une dalle imperméable. Donc, on a déjà magasiné un beau dôme, comme on voit partout dans les villes, puis même sur les fermes maintenant. Donc, on va aménager cet été ce terrain-là. Il a déjà été commencé, on a déjà commencé à faire des travaux, on l'a repenté pour bien le délimiter. Donc, au cours des années, on veut faire un bon abri pour nos abrasifs. Puis se faire aussi des parcs pour chacun des types de matériaux qu'on accumule. Quelque chose de propre et de bien aménagé. Donc, c'est des sommes qui sont prévues. Nettoyage des fossés, mais écoutez, on a commencé à en faire il y a 2 ans. Nos fossés manquaient d'amour pas mal. Donc, on veut investir là, des sommes de 15 000 $ par année en moyenne pour faire des sections, notamment sur l'avenue du Rocher. Traiter les fissures de l'asphalte, on va y aller avec les outils qu'on a, c'est-à-dire plutôt de faire venir une firme spécialisée. On va carrément mettre de l'asphalte froide dans les tranchées. Ça va se faire là, quand les gars vont avoir du temps. Donc, on réserve un montant là, de 500 $ par année là, en fonction des secteurs. Donc, sur l'avenue du Lac, il y a effectivement là, un tronçon qui a besoin de ça. Et sur l'avenue du Rocher, pas loin de chez vous d'ailleurs, il y a de très larges fissures. Et vous savez, les fissures, là, c'est le début de la fin pour une chaussée. Parce que c'est là l'eau s'infiltre, ça gèle, ça fait élargir la fissure et là, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est important de faire ça. Le fameux réparation du ponceau numéro 2, je le prévois, là, on attend... En fait, on voulait le faire cet automne, on a manqué notre coup à cause de la température. On veut faire ça là, dès le début du printemps. On le fera en partie en régie, avec une somme qui viendrait du programme de la voirie locale, puis... peut-être d'une réserve, une partie de la réserve pour l'environnement. Là, vous voyez que le montant est très gros, là, mais on va le changer. Je vais faire une inversion à quelque part parce que le calcul ne fonctionne pas pour la base annuelle. Ensuite, j'ai le ponceau numéro 3, qui est un autre cas problématique. C'est pas très loin de M. Schwartz, dans le détour de l'avenue du Rocher. C'est un ponceau qui est sous-calibré. En fait, tous nos ponceaux sont sous-calibrés. Ils ne répondent plus aux besoins. Mais lui, son problème, c'est qu'il est très enfoui sous la fondation de la route. Et la fondation de la route, c'est essentiellement des gros blocs là, qui ont été mis pour faire le remblai. Et quand le ponceau ne fournit pas, il se fait une surcharge en amont et ça filtre à travers le remblai et qui crée des problèmes chez les propriétaires de l'autre côté de la rue. Ça, c'est un fichu de dossier, ça va prendre des plans et devis, c'est un dossier qui va coûter passablement très cher. Alors, ponceau, toi, j'ai mis 26 000 $, c'est uniquement pour les plans et devis, puis on va le faire dans 29, parce qu'on n'a pas la disponibilité budgétaire pour le faire avant. Mais c'est une problématique qui est connue. Bon. Ensuite, dans le plan d'intervention qu'on a eu cette année, il y avait de refaire la rue du Ruisseau. On a une problématique avec un ponceau sanitaire qui est bouché. À cet endroit-là, les conduites sont enfouies très, très profondément. Et à chaque fois qu'on a un bris, ça coûte un bras. On dit, là, ça coûte très cher. Et de toute façon, les conduites sont dues à être changées. C'est des conduites en fonte grise, autant sur la rue du Roche, sur l'avenue du Ruisseau, sur l'avenue du Sentier et sur du Manoir. Donc, ces trois dossiers-là, pour y faire une économie d'échelle, on l'avait planifié de les faire ensemble. Par contre, on parle d'un investissement qui finalement va dépasser le million de dollars. Donc, je prévois faire les plans et devis en 27 pour au moins commencer à initier des travaux en 28 et peut-être possiblement dans le 29 dans un autre plan d'attaque parce qu'on n'a pas le financement. Le
671 000,
il va passer, entre autres, pour payer les études qu'on a déjà faites et pour le sanitaire sur l'avenue du Mont, des Monts et l'avenue du Lac. Alors, vous voyez, on ne fait pas ce qu'on veut hein, quand on regarde le financement et autres. Puis, comme je vous dis, c'est bien financé, la tech, sauf qu'il faut avancer des sommes. Donc, c'est des règlements d'emprunt. Et là, l'idée, c'est qu'on ne veut pas faire de règlement d'emprunt tant qu'on n'aura pas libéré certains emprunts qui viennent à échéance prochainement. OK, on essaie de jouer aussi avec le financement là, qu'on a à assumer. Je vous donne l'exemple, la déneigeuse est à veille d'être finie.
2029.
En tout cas, on voit là, il y a des prêts qui vont se libérer.
Ils vont être finis de payer, il faut être fini.
Ils vont être finis de payer et autres.
Silence.
Par contre, on a des prêts qui viennent à échéance qu'il faut refinancer. Alors, on prend ça en ligne de compte quand on regarde des projets dans les plans d'immobilisation. Donc, ces projets-là, on essaie de les mettre là parce que c'est l'argent qui va nous rester dans la tech actuelle qui se termine en 28. Donc, j'ai mis 700 000, mais ça va être probablement beaucoup moins que ça. Là. OK? On va probablement amorcer les choses. Réhabilitation de la conduite pluviale principale entre la rue du Pied des Pentes et du Manoir. Vous savez, on a implanté un immense puiseur, diffuseur, capteur, un storm center, qui coûte 300 000 $, qui sert uniquement à ramasser les eaux qui viennent de la rue des Villas et un petit peu du Manoir. Et il n'est pas branché à la grosse conduite qui, finalement, draine tout le fond de la vallée. Finalement, notre problème, c'est que tout est sous-calibré au niveau du drainage. Les conduites sont sous les terrains du manoir du lac de Lage. Donc, on n'a pas accès à pouvoir les changer. C'est ce qui explique qu'on a des inondations, des fois, sur pied des pentes après une forte pluie. Il faudrait tout recalibrer, même faire des réservoirs. C'est un projet qu'on discute avec le manoir. On veut tout revoir, cette question-là. Et c'est pour ça que j'ai mis des subventions extérieures. Ce n'est pas par la tech qu'on peut faire, parce que la tech, c'est uniquement lorsqu'on a du lac-aduc et du sanitaire que la tech rentre. Mais quand on rentre uniquement dans du pluvial, il faut aller chercher d'autres programmes. Peut-être Primo.
Le Primo,
qui est un autre programme qu'il faut regarder. Donc, ce qu'on en regarde, les montants qui sont là, c'est essentiellement des montants pour initier, parce que c'est un projet quand même important. Là. C'est tout revoir le drainage qui part d'en arrière ici jusqu'au lac. Et dans ce projet-là, il y a la question que, à partir des terrains du manoir du lac de l'Age, les terrains qui sont sous gazon, on réouvre la conduite pour faire un ruisseau naturel. C'est un projet que je leur ai présenté et auquel ils adhèrent. Avec une cascade sur le bord du lac, avec des sentiers et autres.
Côté manoir.
Près des tennis, là, on se ferait ça dans ce coin-là. Donc, le diffuseur ramasserait toutes les eaux chargées de sédiments, il ferait un nettoyage, et là, ça sortirait dans un ruisseau ouvert avec des cascades qu'on aménagerait pour améliorer la situation. Parce qu'il y a un projet avec le manoir aussi, avec la Ville de Québec, c'est de restaurer la berge du manoir du lac de l'Arche en enlevant les structures de béton. Et ce projet-là s'inscrirait dans cet ensemble-là. Donc, c'est un montage qu'on est en train de faire avec eux. C'est un beau projet, je vous avoue, là... On ramènerait la situation à l'origine, parce qu'à l'origine, on avait un véritable ruisseau qui se drainait là. Parce que ce qui est canalisé, c'est un ruisseau. Dans l'urbanisme, M. le maire a parlé d'un plan de planification stratégique, bien, l'argent est là. On l'a mis dans le financement de la ville, dans le fonctionnement. En sécurité, j'ai prévu des sommes pour faire des glissières de sécurité. On n'est absolument pas dans les normes sur l'avenue du Rocher. Alors, quand on atteint des pentes de très, très fortes, d'une certaine profondeur, on est obligé de mettre des glissières de sécurité. Alors, dans les projets qu'on a, c'est d'ajouter des glissières de sécurité au moins à quatre sections où vraiment il y a un risque. Et, bon, ensuite, dans les parcs nautiques, ce que j'appelle le parc nautique, c'est les accès là, aux citoyens au lac. Il y a des projets de stabilisation de rives. On a ici 17 000 $, c'est carrément l'escalier qu'il faut refaire. Donc, il y a des sommes qui sont prévues. Là. Cette année, on va changer les marches, mais éventuellement, il faut tout refaire l'escalier. Et on va ajouter une section de quai sur l'avenue du Lac. Et sur... Oui, c'est ça. Ensuite, on a finalisé le parc ici à l'arrière. C'est un projet qui avait été initié avant que j'arrive. Il nous restait 150 000 $ pour réaliser cette chose-là. Donc, on a un projet d'amphithéâtre pour utiliser au maximum le pavillon, de tout refaire les sentiers, de remettre plus de pelouse et surtout d'implanter les jets d'eau, les bruines, qui est un jet d'eau qui a quand même coûté assez cher, qui dorment au garage. Là, on va les installer. On va mettre un abreuvoir aussi dans ce secteur-là. Donc, c'est un projet qui était prêt à aller en construction à l'automne, mais le fournisseur qui a eu le contrat était déjà, son carnet de charges était déjà plein. Donc, on va initier ça dès le printemps. Donc, c'est un règlement d'emprunt qu'on doit aller chercher. Ça, ici, c'est des contributions qui viennent des usagers. Et enfin, une mise à niveau des bassins de rétention. Ici, à l'arrière, là, pendant deux fois, suite à deux pluies, tout le terrain a été inondé. Donc, il faut revoir ces bassins-là, les recalibrer pour qu'ils soient capables d'absorber la crue, ce qui va alléger les conduites d'eau sur le pied des pentes. Donc, tout ça pour vous dire que, vous voyez, les montants que ça représente, c'est quand même des bons investissements. Il faut dire qu'il y a des grands projets là-dedans. Mais on essaie d'équilibrer un peu la charge. M. Blanc disait tantôt qu'on essaie de faire de plus en plus de choses en régie. Oui, effectivement, le parc, il y a une grande partie qui va être faite par nos employés. Tout ce qui est pose de pelouse, étaler du gravier, compacter, des choses comme ça, on va essayer de le faire à l'interne. Et tout ce qui demande un peu plus d'expertise, je pense à la plomberie, l'électricité, du terrassement compacté là, pour l'amphithéâtre, ça va être donné à contrat. Donc, vous voyez ici les sommes un peu en fonction des usages, là, donc, les fonctionnements, les contributions d'usagers, la réserve voirie, ben là, il est gros, on va le dégraisser un peu, là, en compte tenu des sommes qui doivent être affectées ailleurs. Mais c'était pour ça qu'on veut faire des réserves. C'est justement avoir les moyens de nos ambitions. Parce que si on va chercher des emprunts chaque fois, ben, on ajoute à la dette et à des obligations qui ajoutent au fardeau fiscal.
Les intérêts. Qui sont de plus en plus élevés aussi.
Les renouvellements qu'on doit faire, on partait de
1.5 puis 1.8 sur les deux financements. Puis là, ce qui passe sur le MAMASH, on part à 4. Fait que, tu sais, ça apparaît de beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'on va les regrouper en même temps qu'on va avoir nos deux financements qu'on doit faire là, pour les bouts, parce qu'on n'a pas le choix. Puis pour le parc, pour avoir seulement un emprunt. Des fois, ça aide au niveau là, des banques qui sont plus gentilles. Puis en financement à l'automne, ben, on espère que ça redescende un peu aussi.
Oui. Avez-vous des questions par rapport à toutes ces choses-là?
Non, j'avais une question. Enfin, qui était peut-être un petit peu peut-être générale, mais est-ce qu'on peut avoir des comparateurs? C'est toujours intéressant de se situer par rapport aux municipalités, malgré qu'on est peut-être une spécificité à l'Europe. Et les comparatifs d'endettement, des choses comme ça,
on va approuver le plan triennal, la résolution proprement dit, puis après ça, je pourrais répondre à votre question là, spécifiquement à ce moment-ci. Vas-y.
Alors, le point 4, hein, programme triennal d'immobilisation 2026 à 2028, étant donné que des immobilisations sont prévues pour 2026-2027-2028, attendu que les immobilisations prévues doivent apparaître sur le plan quinquennal d'immobilisation.
Triennal. Oui, c'est une petite erreur.
Sur la proposition du conseiller?
Moi, Alexandre Morin.
Il est résolu et adopté à l'unanimité.
Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais juste arrêter ça ici. Puis, on va arrêter. Voilà. OK. Fait que là, c'est la période des questions. Donc, on va commencer par prendre certaines questions. Pour répondre à votre question, M. Beck, c'est bien M. Beck?
Oui.
Et votre adresse?
Oui, du Rocher.
Parfait. Donc, en fait, oui, c'est utile de se comparer avec des municipalités autour. L'enjeu avec ça, on le fait pour comprendre aussi où est-ce qu'on se situe en termes d'augmentation de taxes, par exemple, où est-ce qu'on se situe en termes d'endettement. Les données sont toutes disponibles dans le site j'ai oublié l'organisme, mais c'est...
MAMH.
C'est le MAMH, merci. Oui, toutes les données sont disponibles dans le MAMH, donc on peut faire des comparaisons entre les différentes municipalités. Faut quand même prendre ça avec un grain de sel parce que chaque municipalité a des particularités. C'est difficile de comparer des pommes avec des pommes, même quand on regarde des fois les tailles de ville ou autre. Puis l'exemple qui me vient le plus en tête, c'est justement c'est quoi la composition, par exemple, là, de des catégories d'immeubles qu'il y a dans la municipalité. Une municipalité comme, je sais pas, c'est Saint-Gabriel-de-Valcartier qui ont, eux, ils ont la base militaire sur leur territoire. Ils ont une petite population, mais ils ont le village Valcartier. Ça change complètement la donne en termes de recettes puis de comment les moyens de la municipalité. Donc ça, c'est un exemple spécifique, mais il y a ça. Puis aussi, il faut faire attention à partir de quand les municipalités ont eu leur nouveau rôle d'évaluation, parce que c'est pas tout en même temps. Donc, une année où il y a un nouveau rôle, bien, ça a des impacts différents sur comment le budget est monté, quand je dis différent, bien, les taux de taxation bougent différemment que si c'était une année régulière du rôle d'évaluation. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut faire attention. Mais ce qu'on sait, ce que j'ai en tête, puis là, je peux peut-être me tromper, là, mais vous me corrigerez si je me trompe, mais de mémoire, la ville de Sainte-Brigitte, eux, ont eu une augmentation du budget d'environ 4,8%. Je pense que leur taux était à 3,6, le taux d'augmentation qu'ils ont eu cette année. L'autre que j'ai en tête, mais que j'ai plus en tête, c'était...
Fossambault,
c'est ça.
5,6.
C'est 5,6, Fossambault, puis 4,5 d'augmentation, quelque chose comme ça. Citez-moi pas là-dessus, là. mais c'est juste pour vous donner une idée, là, sur... Je pourrais retrouver l'information, là, je ne l'ai pas tellement loin. Mais ça, c'est en termes d'augmentation du taux de taxe, tout ça. Puis au niveau de l'endettement, comme je disais tout à l'heure... souvent, on va regarder, il faut comparer vraiment la dette qui est au contribuable. Parce que je regardais, Lac-Beauport, ils ont à peu près 24 millions de dettes, mais il y en a 20, non, c'est plus que ça, je pense, c'est 35 millions de dettes, mais il y en a 10% seulement qui est subventionné. Tout le reste est à la charge des contribuables. Fait que ça fait une différence. Là. Nous, on a 40% de notre dette qui est assumée par des subventions. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre le temps de quand on analyse ça, il faut rentrer un petit peu dans les chiffres pour bien comparer les pommes avec des pommes. Nous, ce qu'on a comme moyen, c'est de travailler avec l'écosystème, avec ce qu'on a ici là, comme ressources. Puis après ça, ben c'est ça. C'est le plus important, ça va être, encore une fois, d'aligner ce qu'on veut en termes de collectivité comme service, comme soutien à nos résidents, c'est quoi les projets d'avenir qui sont importants pour notre collectivité. Puis après ça, ben ça va être plus facile d'aligner les ressources financières avec une direction qui va être dans un même sens à long terme. Donc, ce qu'on propose cette année, c'est vraiment de sortir de la gestion à court terme, puis vraiment d'avoir une vision un peu plus à long terme pour prendre des bonnes décisions là, qui sont des fois nécessaires d'être vues sur plusieurs années. Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, mais d'accord.
C'est juste d'avoir accès à ça, parce que oui, je comprends qu'il faut effectivement pour tout comparer. On a 800 habitants pour la porte commerce.
C'est ça.
Par rapport à Saint-Brigitte de Laval, il y a une grosse différence. Mais
exact.
C'est toujours intéressant de pouvoir un petit peu, ne serait-ce que savoir la valeur des maisons globalement, ouais. Des choses comme ça. Et bon,
ouais. Toutes ces données-là, comme je dis, sur le site du MAMH, c'est assez facile de les sortir. Il y a ça le profil financier d'une municipalité, tout est public. Donc, c'est assez facile. Les tableaux sont assez bien simplifiés. Donc, il y a moyen là, pour...
Tu peux y avoir un lien?
On peut vous partager ça. Sans
mettez le profil financier, vous allez tomber dessus.
Non, on va le mettre avec les acétates.
Ouais, on peut faire ça. Avant de prendre la prochaine question, je vais juste prendre une minute pour remercier François et Mélissa qui ont fait un travail... d'arrache-pied. Là. Puis, je ne sais pas si vous le réalisez, mais on parlait de petites villes, mais il y a eu les élections. Fait qu'en même temps, ici, vous avez les secrétaires et présidents des élections. Vous avez trésorier et directeur général et greffier, greffière. La quantité de chapeaux que vous portez est assez impressionnante. Puis, ben, à un moment donné, ça fait que manque d'heures dans une journée pour arriver, puis ni François ni Mélissa comptent les heures pour qu'on arrive à livrer ça. Donc, je vais au moins prendre le temps de le souligner. Là, c'est important parce que, surtout quand on a des deadlines qui sont imposés par la réglementation, ben il faut mettre les bouchées doubles. Donc,
j'ajouterais que pour faire ça, il fallait fermer l'année.
En plus.
Et ça pose un défi là, pour Mélissa, parce que le système ne marche pas si on ne ferme pas l'année.
À gérer tout le quotidien en même temps.
Évidemment.
Et répondre à toutes les questions.
Et partir la nouvelle année en même temps.
Et répondre à toutes les questions des nouveaux conseillers.
Aussi.
En même temps.
Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup. C'est très apprécié. C'est énormément de travail qui va derrière tout ça. Donc, je voulais prendre le temps de le dire.
Merci. Voilà. Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez d'autres questions en lien avec le budget et ou le plan d'immobilisation? Ben oui, allez-y, votre nom, votre
adresse. Je suis Marcoux, 53 rue du Rocher. Moi, c'est dans l'acétate, je ne sais pas si tu peux ressortir l'acétate d'un exemple de ceux qui reçoivent...
Sur du Rocher?
Non.
Non?
Ceux qui ne sont pas sur du Rocher.
OK. Des sentiers ou...
Bon, OK, c'est bon.
Oui.
Ou à quel type les égouts? Pourquoi c'est passé de 700 à 400 alors qu'il manque d'argent pour vider les égouts, les choses, tout ça? Je sais que vous l'avez mis dans les réserves, mais ça qui vaut pas encore pour 700.
Parce que l'aqueduc et l'égout a.
Ben, je vais répondre rapidement. Dans le fond, c'est que l'aqueduc et l'égout. Le montant de 700 dans les années passées était égal pour tout le monde, que ce soit le manoir ou que ce soit les citoyens.
Ouais.
Maintenant, ce qu'on a réalisé avec les compteurs d'eau, c'est que la consommation du manoir est beaucoup plus grande que ce qu'on anticipait. Donc, il y a une charge plus grande qui est retournée au manoir,
okay.
Ce qui explique qu'on est en mesure de diminuer les coûts au niveau.
Il faut spécifier aussi que le coût dans l'aqueduc et égout dans cette ligne-là, c'est seulement le fonctionnement. C'est une obligation, ça doit être seulement le fonctionnement. Okay. Tu ne peux pas mettre les réserves d'aqueduc dans le fonctionnement. C'est pour ça qu'on a fait une réserve...
De 150
000. Ben, dans la réserve, il y a la réserve voirie et aqueduc et égout. Okay. Il y a les deux réserves incluses.
Okay. Exactement.
Okay.
Donc, c'est ce qui explique la diminution là, pour le citoyen. Puis, pour le manoir, ben, c'est ça. Donc, lui, il y a une augmentation là, de sa contribution pour le égout et aqueduc.
Merci.
C'est le fun quand ça baisse, vous le mentionnez.
Petite question de Philippe Barrette, sans l'œuvre du verger. J'ai donné à voir moi, cette page-là, mais pour mon chez nous. J'avais 46%, je pense, d'augmentation, c'est ça?
Oui, mais fie-toi pas à ça.
Mais non, reste que j'ai une question. Moi, je sais, là, c'est pas parce que j'ai amélioré, j'ai pas mis 100 000 piastres ou 100 millions sur ma maison. C'est que les voisins ont vendu à des prix plus élevés que ce que j'ai payé. Je comprends la mécanique de ça, mais tu vas me contester, vous dites que...
Oui.
Mais ton 46, il ne marche pas non plus, okay. Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous avez de l'intérêt et arrérage, il en fait partie dans votre calcul. Okay. Fait que ton calcul, il n'est pas bon.
Oui, oui, mais pour répondre à ta question spécifiquement, le rôle d'évaluation, c'est fait par la MRC. Donc, Groupe Altus, c'est la compagnie qui fait les évaluations. Et ces évaluations-là tiennent compte de deux choses. Est-ce qu'il y a des améliorations qui ont été apportées au bâtiment? Et quel est le mouvement au niveau du marché immobilier dans le secteur? Donc, comme tu dis, s'il y a des maisons qui vendent plus cher, ben nécessairement, l'évaluation des maisons augmente. Donc, un peu à la merci du marché immobilier. Puis, ces processus-là sont complètement indépendants des municipalités. Là, c'est vraiment externe. Et il y a effectivement un processus de contestation. J'ai aucune idée comment ça peut se passer, mais je sais que ça existe, puis c'est probablement même fourni en arrière de la lettre que vous avez reçue qui augmentait le rôle.
Tu fasses la demande au niveau de la MRC même, ça va avec la valeur de ta maison. Tu as un montant, c'est à peu près 75 $ pour une maison moyenne. Puis à ce moment-là, tu contestes, puis eux autres, ils vont vous expliquer pourquoi. Ou tu appelles chez Groupe Altus, puis ils vont t'expliquer aussi.
Il faut aller le voir.
C'est ça. Fait que voilà.
Tu resteras juste avec moi, tu vas comprendre.
Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, allez-y.
Oui, une petite question rapide.
Votre nom et votre...
Oui, Martin Chouinard, 50, rue du Rocher. Je pense que vous avez dit que net des subventions, c'était 3,5 millions, la dette, présente.
Oui.
Oui.
Parfait. Avez-vous modélisé pour les 3 ans avec votre plan triennal ou...
Non.
Où on va être, que vous me suivez. Donc, à la fin de l'an 1, à la fin de l'an 2, à la fin de l'an 3... est-ce que ce 3.5-là va être 4.5 ou va être 2.5?
Bien, on a des fichiers internes, Mélissa, mais on ne l'a pas présenté, on ne l'a pas sorti, mais on a une visibilité là-dessus, tu en parlais.
Tout à fait. Dans le fond, ben, il y a deux choses. Premièrement, le 2.5 millions qui est financé en subvention, on a un calendrier, mais il est échelonné sur 20 ans. Fait qu'on a l'équivalent d'à peu près 200 $ par année qui nous est versé. 200 000 $, oui, qui nous est versé par année. Puis pour ce qui est de la dette, là, ça, c'est ce qu'on paye par année. Mais il faut enlever quand même le 200 000 qu'on reçoit en subvention annuelle aussi. Ce qui arrive, c'est qu'en 2027, les travaux de l'hôtel de ville, ils doivent être refinancés. Donc, le changement d'intérêt peut avoir une incidence. En 2027, justement, il va rester 1 746 000 $ pour la construction de l'hôtel de ville, le parc et le jardin. Puis en 2028, ça va être les travaux d'aqueduc et d'égout, que c'était quand même presque 4 millions. Bien, en 2028, il va rester 3 500 $ à refinancer pour ce qui est des travaux PIQM. Mais les travaux PIQM, ils sont subventionnés sur 40 ans. Mais à toutes les 5 ans, il faut les refinancer quand même.
Fait, c'est excellent, je comprends qu'on en ajoute, qu'on en enlève, qu'on en paye. Ma proposition était juste, si c'est possible, de le modéliser dans votre plan triennal pour nous dire, comme citoyen, à la fin de l'année, est-ce que le 3.5 va augmenter ou va descendre?
Oui, bien, c'est dans mes objectifs d'arriver de nous donner une visibilité financière un peu plus... plus longue que l'année en cours. Fait que, comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on va pouvoir prendre le temps de faire pour qu'on aille... avec mon background, j'aime bien savoir qu'est-ce qui va se passer pour 3 ans. Fait que là, on va arriver. On a l'information, tu sais, c'est à droite, à gauche qu'on a. On a l'information.
Dans le fichier complet.
Oui, oui, on est capable de faire ça.
On va être capable de modéliser puis de le partager aux citoyens là, de façon claire et concise. Merci.
Parce que c'est pas une bonne période pour emprunter, là. Et surtout que les remboursements de sur 40 ans, 20 ans, eux autres, ils ne s'ajustent pas tellement à ce qui se passe. Ouais. C'est ça le problème.
Pas indexé. Hein?
Non, il n'est pas indexé. Le taux qu'il nous donne sur 20 ans, ben, il reste à 3% à peu près, mais il est cané sur 20 ans. Il ne changera jamais.
D'accord, on doit assumer la différence. C'est pour ça que des fois, on étire la chose. Même si la subvention semble alléchante, on est des fois mieux. Mais il faut savoir qu'il y avait énormément de retard ici. Là. Ce qui était le pire du pire a été fait. Là.
Oui, non,
l'ignorance des
plus
urgents.
Oui,
oui. Mm-hmm. Okay.
Et d'ailleurs, il y avait la mairesse de Longueuil qui aujourd'hui, je pense, publiait un commentaire sur un article dans la presse où Longueuil était extrêmement bien coté en termes de dette, basse dette, un taux de taxation très bas, mais elle en fait faisait le commentaire que ça ne reflétait pas la situation réelle de la ville parce qu'il y avait effectivement des sous-financements qui avaient été faits dans plusieurs secteurs. Donc, c'est bien beau pour avoir de dette puis pour avoir de taxes élevées, mais après ça, si toute ton infrastructure est en train de tomber en pièces, tu regardes pas la bonne affaire. Là. Fait que, c'est pour ça. Il faut balancer les choses, puis on a fait du rattrapage dans les dernières années, puis on en a d'autres, comme vous avez vu, là, avec le plan triennal, on en a d'autres à faire. Mais il faut juste ancrer ça dans la vision à long terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget ou autre sujet spécifique au budget? Ça va aller? Parfait. Donc, sur qui me propose la levée de l'Assemblée? Donc, sur la proposition de France, il est résolu de lever l'Assemblée à 20h36 aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci,
merci.
Merci. Quelque chose? Moi, je peux toutes les données. Moi, j'ai pas besoin d'être. Je vais juste m'assurer de y aller.